Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Alors un grand bonheur à cause de Ravel, mais à cause de son interprète aussi. Imaginez-vous que Philippe Bianconi a enregistré l'intégrale de l'œuvre de Ravel et que c'est une merveille, vraiment. Et on a la chance d'avoir Philippe dans le studio. Philippe, j'aimerais parler un petit peu de vous avant, rappeler un peu qui vous êtes, si je puis le faire. Et puis, à votre dernier concert, Salle Gaveau, vous avez un succès gigantesque, à propos d'ailleurs de cette intégrale Ravel, il y avait un programme d'une femme comme moi, critique, et j'ai trouvé qu'elle parlait magnifiquement de vous. Je vous connais depuis longtemps et elle a su capter vraiment ce que vous êtes, tout ce qui émane de vous. Et voilà, alors je lis un petit peu, hein, et elle parle de vous en parlant de votre alliage de pondération et d'ardente passion, votre discrétion et de flamme intérieure paraît de cette élégance et cette luminosité qui se lise dans sa présence, en parlant de vous, dans son regard, et qui se savoure lorsqu'il est au piano. Et bon, il faudrait lire vraiment tout ce qu'elle écrit sur vous, parce que c'est formidable. Et en effet, et ma première question, c'est quand vous avez donné un récital, et puis que vous avez enregistré Schumann, tout le monde a parlé de ce Schumann en disant c'est l'homme de Schumann. Christian Merlin dans le Figaro a fait un article dithyrambique en disant que vous ne pouvez pas mieux jouer Schumann. De la part de Christian Merlin, c'est pas fréquent. Et puis voilà, vous sortez. Moi j'étais un peu inquiète au début de ce concert parce que Ravel c'est un univers tellement différent. Je me suis dit, comment ce romantique qui interprète si bien cette musique allemande de Schumann, comment va-t-il comprendre, appréhender Ravel? Eh ben non, c'était fantastique. Alors vous êtes aussi Merci. Bien l'homme de Ravel que l'homme de
Ah, écoutez, d'abord je voudrais vous remercier de me recevoir et je suis ravi de bavarder avec vous, et puis je suis très touché des mots de Jenny Campello que vous avez lu tout à l'heure. Alors comment peut-on, vous savez, je pense que la personnalité de tout un chacun peut avoir diverses facettes, et si le côté en moi dont parlait Jenny Campello, de cette passion intérieure, parvient à s'exprimer à travers la musique de Schumann. Il est probable aussi que mon éducation française et mon tempérament, en effet, peut-être un petit peu discret, réservé, qu'on m'a même parfois un peu reproché, s'adresse plutôt à un compositeur tel que Ravel, qui était d'une pudeur immense et qui a toujours exprimé tout ce qu'il avait à exprimer, et parfois des choses d'une très grande profondeur.
Je dirais même parfois très... pas triste, c'est plus que ça. Très grave.
Très grave. Mais toujours, justement, avec cette très grande pudeur dans la forme, dans les moyens employés. Et je me reconnais là-dedans aussi beaucoup.
À la limite, pour moi, ma plus grande surprise a été de vous entendre interpréter Schumann. Parce que ce romantisme allemand, ce lyrisme, cette expressivité, vraiment, vous rentrez dedans dans chaque note, dans chaque son. Et ça, j'ai été ahuri. Et alors, être l'interprète privilégié de deux compositeurs aussi différents, c'est vraiment surprenant et rare.
Ben écoutez, tant mieux, ça me ravit, parce que je serais un peu triste d'être l'homme d'un seul univers, en tout cas de ne pas pouvoir exprimer totalement tout ce qui est nécessaire d'exprimer lorsqu'on aborde des époques, des compositeurs en effet aussi différents que Schumann et Ravel. Je pense que j'ai été, comme je disais tout à l'heure, ça correspond à un aspect de mon tempérament. Et puis j'ai été nourrie aussi au romantisme allemand, parce que j'ai découvert cette musique assez jeune. J'ai été dans ma folle jeunesse, comme aurait dit Debussy, follement wagnérien. Je suis toujours wagnérien d'ailleurs, mais avec un peu plus de distance maintenant.
De recul.
Un petit peu plus de recul. Et pour moi, Schumann, bien entendu, mais Brahms aussi, sont des compositeurs essentiels. J'ai eu cette extraordinaire expérience lorsque j'étais jeune de jouer avec Hermann Prey, qui était un...
Vous avez fait ça pendant 8 années, 6 nuits.
Voilà.
Avec ce chanteur qui était un des plus grands de tous les temps. Vous l'avez accompagné pendant 8 ans.
Oui, alors j'étais pas le seul.
Non, toute cette période-là, autre chose.
Il avait plusieurs pianistes qui jouaient avec lui, mais il m'a donné il m'a fait ce cadeau extraordinaire de...
Il a dû penser la même chose de vous.
Peut-être.
Oui, peut-être. Mais je suis sûr. Autrement, on reste pas avec le même pendant 8 ans.
Certainement, mais je pense que... Enfin, je dis cadeau parce que lui avait atteint la cinquantaine et moi, j'avais à peine 25 ans.
C'est fou.
Et c'était évidemment pour moi une expérience hors du commun. Et bien entendu, le cœur de son répertoire, c'était Schubert. Nous avons d'ailleurs enregistré les 3 cycles de Lieder de Schubert. Et puis Schumann, j'avais donné aussi plusieurs fois, je l'avais accompagné dans le cycle de La Belle Maguelone de Brahms.
Oui.
Et donc, je pense que ça m'a nourri aussi, ça m'a fait vivre de l'intérieur.
C'est-à-dire que vous en aviez la richesse intérieure. Ce qui est complètement étonnant, c'est lorsque on voit un être comme vous, qui est si musicien, qui est si modeste, si humble, vraiment, et ce feu intérieur, vraiment, c'est complètement surprenant. Et on se dit que c'est pas les gens qui sont le plus extériorisés, qui sont les plus romantiques.
En tout cas, pas toujours. Forcément. C'est vrai.
Alors, on va rentrer maintenant dans l'univers de Ravel. Vous en avez déjà parlé et bien parlé. Ce que je propose, c'est qu'on écoute les jeux d'eau de Ravel. Et puis, on pourrait aussi entendre un extrait du miroir, Alborada del Grazioso, parce qu'on va écouter un certain nombre, un maximum d'œuvres de Ravel extraites de cette intégrale sortie chez la Dolce
Volta.
Chez la Dolce Volta, cet éditeur extraordinaire. On écoute Ravel.
Thank you.
C'était d'abord les jeux d'eau, et puis après extrait des miroirs, l'Alborada del Grazioso, interprété par Philippe Bianconi, qui a enregistré l'intégrale de l'œuvre de Ravel, sortie chez la Dolce Volta. Un mot pour ces jeux d'eau de Ravel, cette pièce inspirée du bruit de l'eau, des sons musicaux que font entendre les jets d'eau, les cascades et les ruisseaux, c'est un univers totalement différent de l'autre œuvre qu'on vient d'entendre, de l'Alborada del Grazioso.
Exactement. Alors, Ravel lui-même touche à des univers évidemment différents. Les jeux d'eau, je pense, sont véritablement son premier grand chef-d'œuvre pour le piano. Il a écrit auparavant quelques œuvres comme la pavane pour une infante défunte, le menuet antique, mais tout d'un coup, là, avec
c'est une explosion.
Exactement.
Une explosion dans le milieu musical, ça s'éloignait de Debussy, et c'était fascinant de beauté et d'un petit miracle.
Un miracle absolu. Il y a à la fois... on sent un petit peu le côté listien de l'écriture, parce qu'on se souvient des jeux d'eau à la Villa d'Est de Liszt. Et on sait que Ravel, à une époque où en France on adulait Chopin et on considérait Liszt un peu comme un histrion, et Ravel avait étudié certaines des œuvres de Liszt, enfin avait étudié les partitions. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on voit la source de cette écriture pianistique, mais elle est en même temps totalement nouvelle.
Nouvelle et personnelle.
Et personnelle.
Alors, c'est extraordinaire, c'est qu'il il ose affronter vraiment complètement cet univers français, parce que c'est une sensibilité tellement française, alors qu'on sort de l'envahissement de l'Allemagne.
Exactement, et ça c'est d'autant plus frappant, parce qu'on est même encore dans une époque où un certain nombre de musiciens français essaient de s'imposer, d'exprimer leur voix, une voix différente, par rapport à d'autres musiciens français qui sont, eux, totalement fascinés par la musique allemande, et notamment Wagner, qui plane comme
Wagner,
ça, comme
une, Abraham, Schumann,
comme,
quand même...
comme une ombre gigantesque. Et c'est extraordinaire, parce que Debussy a eu plus de mal à se sortir de ça. Ça a été pour lui le fruit d'un travail. Il y a une évolution. Chez Ravel, tout d'un coup, voilà, il ouvre une porte nouvelle qui n'a plus rien à voir avec tout ce dans quoi on baignait à ce moment-là. Et il nous offre une pièce d'une gaieté, d'une joie absolument extraordinaire. Et alors, en effet, à côté des jeux d'eau, Alborada del Gracioso, là, c'est évidemment une pièce d'inspiration espagnole. On sait combien la musique espagnole et l'Espagne a compté pour Ravel, tout d'abord sur un plan personnel, puisque sa mère était une basque espagnole. Et puis, il était fasciné par cette culture, par la musique. Et il a donné d'ailleurs quelques pièces espagnoles absolument extraordinaires. Il y a la Rhapsodie espagnole pour orchestre, mais l'Alborada est une pièce qui a un caractère absolument...
Qui capte parfaitement cette fièvre espagnole.
Exactement.
Ce rythme
entêtant, implacable, ses sonorités en même temps aussi très... très, très sensuel, enfin, ouais. et en même temps, c'est du Ravel pur.
Enfin, c'est... de toute façon, est-ce que vous pensez qu'il y a une note de Ravel qui soit pas du Ravel pur?
Alors, peut-être, mais c'est un second degré. Peut-être les deux pièces très courtes qui sont des pastiches de Borodine et de Chabrier, mais qui sont charmantes d'ailleurs.
On ne les entend jamais. Vous les avez enregistrées ?
Bien sûr. Oui, elles font partie de l'intégrale.
Mais j'ai réécouté beaucoup d'œuvres, mais pas ça.
En dehors de ça, évidemment, Ravel, je crois, est reconnaissable parce qu'il a un langage, et quelles que soient les formes qu'il adopte, qu'il choisit, et d'ailleurs, il ne se répète pas, Ravel.
Jamais.
Il tente quelque chose. Ça réussit, et puis il passe à autre chose. Il n'essaie jamais de refaire, de reproduire un succès. Et donc, il y a à la fois dans son œuvre une variété extraordinaire, et en même temps, il y a quand même ce langage qui lui est tellement personnel, tellement unique.
Comme sa signature, comme son être. C'est vraiment quelqu'un qui n'est sans aucune ostentation, qui est assez replié sur lui-même, un mystère vivant.
Un mystère, oui. Pour la plupart des gens qui l'ont approché, et même ceux qui le connaissaient très bien. Oui. Il est demeuré un mystère.
C'est absolument vrai. Alors, quand on écoute et quand on le joue, on se rend compte que c'est tout un univers, c'est l'enfance, c'est l'espèce d'admiration de la vie, une espèce comme si il découvrait chaque jour la merveille de la vie.
C'est ça. Il y a un regard émerveillé sur le monde et une dimension magique. Il y a une magie dans la musique
absolument.
De Ravel.
Une magie, et en même temps, il peut y avoir un déchaînement, quelque chose de brillantissime comme toutes ces valses, et à côté d'une naïveté, d'une pureté unique.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense que Ravel est quelqu'un qui... comme je le disais tout à l'heure, derrière une très grande pudeur, mais se livre en effet avec beaucoup de naïveté et de candeur et sans arrière-pensée.
Il me fait penser à un enfant qui aurait reçu le génie d'un adulte.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça, mais je trouve ça très joli, en effet.
Alors. On dîne, on reste dans la fluidité. Cet extrait de Gaspard de la Nuit, peut-être un mot bref sur Gaspard de la Nuit et on dîne peut-être plus particulièrement. Et puis, je voulais vraiment qu'on entende un certain nombre d'œuvres tellement différentes les unes des autres. Je pense, après, qu'on pourrait enchaîner avec des extraits des valses nobles et sentimentales.
Volontiers.
Voilà. Et vous êtes partout, vous êtes aussi bien dans cette ondine fluide que dans ces valses d'hommes et sentimentales. La valse a marqué Ravel.
Ah oui, 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 tout à fait. Alors, vous parliez de cette fluidité d'ondine, en effet, on retrouve un petit peu, évidemment, l'élément aquatique qu'on avait dans les jeux d'eau, mais avec une écriture, c'est quelques années plus tard, encore plus raffinée, si c'est possible, et plus sombre tout de même. Il y a un côté... Alors, Gaspard de la Nuit, la suite de Gaspard de la Nuit, est une de ses œuvres les plus sombres, évidemment. Notamment en ce qui concerne les pièces suivantes, le JB Escarbot. Mais déjà, dans Ondine, on est émerveillé justement par cette magie sonore absolue que Ravel parvient à obtenir du piano. Mais on est aussi... touché par ce côté inquiet, angoissé, qui va exploser dans les pièces suivantes de Gaspard, mais qui est déjà là dans Ondine.
En revanche, les valses nobles et sentimentales, c'est un charme infini d'une douceur de vivre.
Là, on est en effet dans totalement autre chose. Ça n'a plus rien à voir... même sur le plan pianistique, enfin, c'est une écriture totalement différente. Il suffit, même je pense que pour un néophyte, il suffit de mettre côte à côte les deux partitions. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Et alors, les valses nobles, évidemment, il y a un raffinement. Alors, il a pensé à Schubert, bien sûr. C'est une sorte d'hommage un siècle après à des suites de danse de Schubert. Et il y a ce raffinement harmonique inouï, vraiment inouï. Cette sensualité aussi, ces moments de joie, des moments de nostalgie. La dernière, notamment, qui est comme un rêve mélancolique et d'une poésie absolument unique.
Voici alors donc Ondine, extrait de Gaspard de la Nuit, et puis extrait des valses nobles et sentimentales, modéré, très franc, assez lent, avec une expression intense, modérée. C'est Ravel et c'est Philippe Bianconi qui en est l'interprète. Thank you. Vous avez pu entendre extrait de Gaspard de la Nuit de Ravel, Ondine, puis extrait des valses nobles et sentimentales, modéré, très franc, assez lent, avec une expression intense, modérée. Et c'était Philippe Bianconi, qui est dans notre studio, qui a enregistré l'intégrale de ces œuvres de Ravel pour la Dolce Volta, qui en est l'interprète. C'est un travail monumental de faire d'enregistrer l'intégrale des œuvres de Ravel. Parce qu'au point de vue virtuosité, dites donc, c'est costaud. On va écouter la toccata. Hein,
oui, il y a des choses très difficiles. Alors, ce sont des œuvres que j'ai jouées, vous vous en doutez, à mon âge, quand même, depuis un grand nombre d'années. Et j'avais d'ailleurs déjà enregistré une première intégrale il y a plus de 20 ans.
J'ignorais
une autre
ça,
maison de disques chez Lyrinx. Et
merveilleuse maison.
Merveilleuse maison. Et c'est Michael Adda, le directeur de la Dolce Volta, qui m'a convaincu de le refaire à 20 ans d'intervalle. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit, après tout, est-ce que je vais vraiment... Est-ce que c'est bien utile?
Oh, oui.
Bon, et puis
je
ne pouvais pas refuser ce cadeau qu'il
c'est
me
incroyable.
Faisait. Et donc je me suis replongé dans Ravel, qui ne m'a jamais quitté tout au long de ma vie, mais enfin, ces dernières années, j'en avais peut-être joué un petit peu moins. Et donc je me suis replongé dans cet univers, dans ces partitions. Et en effet, mais je crois que c'est le privilège de l'âge, si j'ose dire, c'est que on se rend compte à quel point les choses sont difficiles. Alors, est-ce que c'est peut-être une exigence
personnelle, bien sûr,
qui est plus grande?
C'est immense, la vôtre.
Quand on est jeune, vous savez, on se lance. Je ne dis pas qu'on ne se pose pas de questions, mais
oui,
on a un peu l'insouciance de la jeunesse et c'est tellement merveilleux. Et puis, quand on commence à prendre de l'âge, on est assailli.
On est plus seul avec soi-même.
Exactement. Et puis, cette exigence dont nous parlions est certainement plus grande. Et donc, ça a été, en fin de compte, difficile. Je me suis replongé là-dedans à peu près un an avant de la date de l'enregistrement. Et je n'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, mais est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile?
Mais quelle réussite, Philippe! Tout le monde en parle, vous avez le maximum. Dans toutes les critiques de disques, vous obtenez le maximum. On en parle, votre concert dédié à Ravel, vraiment, les gens étaient debout, hurlés. Je ne sais pas combien vous avez eu de rappels. Quel succès! Dites-moi, vous êtes heureux quand même?
Oh, évidemment, évidemment, évidemment. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai enregistré cette intégrale avec tout mon cœur et j'y ai mis tout ce que je pouvais, mais je n'en attendais pas tant.
Ah, c'est quelque chose. Je me dis,
évidemment que je suis heureux.
Et c'est amusant pour moi, ça a été aussi une cure d'optimisme. Parce que je me suis dit, mais il y a tellement de gens qui se rendent compte, que vous interprétez ça. Mais c'est un sommet, vraiment, cette interprétation pour Ravel. Pour moi, c'est un des compositeurs qui m'aura peut-être le plus fasciné dans ma vie, parce que je trouve que c'est le plus mystérieux. Et puis, parce que, au point de vue sensibilité, je suis totalement bouleversé par ce qu'il écrit. Et... Je me suis dit, mais c'est pas possible de jouer aussi bien Ravel, vraiment, alors qu'il est souvent joué, et il a été joué par des très grands.
Et très souvent enregistré aussi.
Très souvent enregistré. Et là, vraiment, mes amis, je vous affirme, si vous n'avez pas plusieurs interprétations de Ravel et que vous n'avez pas trop de Ravel chez vous, je suis sûr que là, je ne prends pas de risque, eh bien, procurez-vous cette intégrale de Ravel jouée, interprétée par Philippe Bianconi. C'est vraiment une merveille, c'est fantastique, vraiment, Philippe.
Alors, je parlais tout à l'heure de cette... grande difficulté à laquelle je me suis confronté en reprenant et puis en travaillant dans l'optique de l'enregistrement. Et ce qui a été merveilleux, c'est que en retravaillant toutes les œuvres en même temps, si je puis dire, j'ai eu une vue d'ensemble et je me suis rendu compte que lorsque j'étais plus jeune, j'avais négligé ou peut-être m'avait échappé cet aspect dont nous parlions tout à l'heure, plus sombre de Ravel. Pour moi, jeune pianiste, Ravel, c'était ce compositeur
étincelant
avec cette surface brillante comme ça, extraordinaire, un magicien des sons.
Perles.
Voilà.
Alors on va terminer avec des extraits du tombeau de Couperin. Bon, j'ai choisi la plus difficile, la toccata, pour montrer quel beau pianiste vous êtes. Et puis on va finir par une œuvre qui est plus connue peut-être que les autres, parce que c'est une sorte de rêve, de charme. C'est la pavane de la Belle au bois dormant. Alors, nous parler un petit peu du tombeau de Couperin, et puis ma mère Loi.
Alors, le tombeau de Couperin, c'est un autre très grand chef-d'œuvre de Ravel. Il s'agit véritablement de sa dernière œuvre pour piano seul. Ravel a vécu encore un certain nombre d'années après avoir composé le tombeau de Couperin, mais il n'a plus composé pour le piano, si ce n'est les deux concertos, bien sûr, pour piano et
orchestre. Surtout concerto pour la main gauche.
Concerto pour la main gauche.
37,
non ? Et 30, 31.
Ah oui,
31.
Donc je te comprends.
Et il s'est, après le tombeau de Couperin, il s'est consacré à d'autres choses, des grandes œuvres pour orchestre, L'enfant et les sortilèges, de la musique de chambre, enfin. Et donc, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était délibéré de sa part, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que il pensait qu'il avait certainement dit tout ce qu'il avait à dire avec le piano seul. Et donc, cette œuvre prend pour moi une dimension très forte. Elle est également très forte parce que elle a été, la composition a commencé au début de la guerre. Ça n'est pas vraiment la guerre qui a présidé à la composition des pièces, mais cependant, chacune des pièces est dédiée à la mémoire d'un ami de Ravel qui était tombé au front, puisqu'il l'a publié en 1918. Donc, c'est une œuvre qui est à la fois lumineuse, mais où il y a aussi justement ce côté sombre.
Et j'irais même révolté.
Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la toccata, justement, moi, je sens ce cri de révolte, comme quelqu'un qui veut absolument exprimer,
clamer
avec une force incroyable, la force de la vie sur la tragédie, sur l'horreur, sur tout ce que le monde venait de vivre. Et à cet égard, je pense que c'est vraiment une œuvre tout à fait bouleversante.
On écoute donc extrait du tombeau de Couperin, la toccata. Et puis, pour pas rester dans ce drame, dans cette œuvre un petit peu dure, je vous propose de terminer avec le charme. On peut pas avoir plus de charme qu'avec la pavane de la Belle au bois dormant. Thank you. Bianconi a enregistré l'intégrale de ses œuvres de Ravel pour la Dolce Volta. Et puis, je vous dis qu'on se quitte, mais pas vraiment, puisque vous pouvez nous réécouter en podcast pendant très longtemps. Et puis moi-même, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.